parfois, je vais juste regarder quand il y a une jolie lumière, bah, comment la lumière va interagir, on va dire, avec le visage de cette personne. Ça, c'est vraiment depuis que je fais de la photo que mon regard a changé sur les gens que je croise. Ouais.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce 29e épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission photo qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach business, et j'aide mes clients dans la construction de leur propre métier de photographe pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans leur vie. Je suis aussi un photographe enrhumé en ce moment, vous l'entendez peut-être. Pour cet épisode, je reçois la photographe Agnès Boutin. Agnès est spécialisée dans la photographie de portraits en extérieur et surtout, comme elle l'annonce d'emblée sur son site internet agnèsboutin.com, Boutin avec deux T, elle fait des portraits vibrants et naturels, une autre façon de décrire son style, lumineux et coloré. D'ailleurs, son site internet, on en a justement parlé dans le podcast, car c'est un modèle du genre. Clair, bien fichu, esthétique, agréable à surfer à l'intérieur, et surtout un site qui épouse à 100% le style photo d'Agnès. Je lui ai justement demandé comment elle s'y était prise pour parvenir à ce résultat. On n'a évidemment pas parlé que de ça, et comme j'en ai l'habitude à présent, j'ai partagé l'interview en deux parties. La première où on parle du parcours photo d'Agnès, pour quelles raisons elle s'est lancée dans la photo de portrait, ce qui lui plaît là-dedans, son approche technique, bien sûr, mais aussi artistique. On a fait un très bon tour d'horizon de sa pratique photo. Je suis sûr que tous les conseils qu'Agnès a donnés dans le podcast, dans cette première partie en tout cas, vont vous aider. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je l'ai questionnée sur l'aspect plus business, entrepreneurial de son activité de photographe. Comme par exemple, les raisons qui l'ont poussée à vouloir vendre ses prestations de shooting, comment elle a fixé ses prix, quelles ont été les premières difficultés qu'elle a pu rencontrer et puis ce qu'elle a mis en place pour les surmonter. Je vous le dis, c'est un épisode, je trouve, pétillant, frais, rempli de bonnes ondes et évidemment grâce à la bonne énergie donnée par Agnès pendant cet épisode-là. Et je sais que ça va vous donner la patate dans votre projet de business photo. Avant de vous laisser avec Agnès, juste vous dire que si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissant de le dire et de laisser une note sur Apple Podcast. Et on peut aussi le faire à présent sur Spotify, car c'est le meilleur moyen de faire remonter le podcast dans les résultats de recherche et donc de le faire connaître sur ces deux plateformes-là. Merci beaucoup pour les 3 minutes que vous pourrez prendre à le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Agnès.
Bonjour Régis.
Je suis ravi de t'avoir dans mon podcast et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un vrai honneur. Alors bon, déjà tu sais, petit passage obligé, un peu comme tu sais le tour de table qu'on a à faire quand on est, je sais pas, au collège, au lycée, dans des réunions, petit tour de table où on demande aux gens de se présenter. Ben tu peux pas trop y couper en fait. Et ben je vais te demander tout simplement de te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Agnès.
Ok, donc je m'appelle Agnès, j'ai 27 ans, je suis photographe en région parisienne, je suis spécialisée dans le portrait et j'exerce l'activité de photographe en plus d'un métier de salariat plus classique. Donc voilà, c'est mes deux métiers qui se combinent.
On en parlera justement de ça, de cette combinaison, on va l'appeler comme ça, entre tes deux métiers. Alors tiens, on va le dire tout de suite, hein, c'est quoi ton autre métier si tu peux le dire ?
Mon autre métier, c'est que je travaille dans les jeux vidéo. Donc, je travaille dans un studio de jeux vidéo et j'aide à la création de jeux.
Pour préparer l'interview, je fais mes petites recherches comme d'habitude. Évidemment, je suis allé sur ton site, agnèsboutin.com. D'ailleurs, je te félicite parce qu'il est, il est chouette. Il est simple, il est beau, il est propre, il est fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'invite déjà ceux qui nous écoutent à... Bon, on peut très bien écouter l'interview et en même temps aller voir le site. Donc, allez-y, agnèsboutin.com. Donc, alors, je vais sur ta page bio. Hein, elle s'appelle Présentation, je crois, quelque chose comme ça. Et sur ta bio, en fait, là, il y a la première phrase qui interpelle parce qu'en fait, je lis, tu es né, enfin, c'est marqué, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait tout de suite rêver, en fait, hein, tu vois, ça invite au voyage. Moi, je suis né à Roanne, Loire 42, bon, c'est pas ouf, hein. Voilà, c'est évidemment, c'est ta vie perso, mais j'aimerais bien un petit peu savoir comment ça se fait que tu es né là-bas et puis peut-être que ça aura pu influencer après, justement, ton parcours de photographe, finalement.
Alors, du coup, ma mère est originaire de Nouvelle-Calédonie. C'est une Calédonienne de souche, si on peut dire. Et mon père, il a décidé d'habiter là-bas assez jeune. Donc, ils se sont rencontrés là-bas et puis ils ont fait leur vie, ils ont fait leurs enfants. Je suis née sur le caillou, comme on l'appelle. Et puis, j'ai habité jusqu'à mes 18 ans en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et puis, pour mes études, tout simplement, je suis partie en métropole puisque les opportunités sont plus nombreuses donc en France métropolitaine.
Donc, tu as vécu... Ben plus de la moitié de ta vie, en fait, parce que t'as 27 ans, 18 ans, ben oui, plus de la moitié de ta vie là-bas en Calédonie, quoi. Écoute, c'est oui, ça fait forcément rêver parce que c'est l'autre bout du monde, c'est hyper exotique. Donc nous, comment on les appelle je sais qu'à La Réunion, les Français de métropole qui vont à La Réunion, on les appelle les oreilles. Comment on les appelle les Français de métropole qui sont là-bas en Nouvelle-Calédonie?
On utilise le même terme.
Ah
On a
ouais?
repris le terme créole aux oreilles. On ne parle pas créole en Nouvelle-Calédonie, mais on prend un peu des mots de partout. Et pour le coup, on a piqué aux oreilles en créole.
D'accord. Il n'y a pas d'accent, en fait. Je veux dire, tu m'aurais pas dit que tu avais vécu jusqu'à tes 18 ans là-bas. J'aurais pas décelé mais un quelconque accent. Vraiment, tu as un accent qui est très... je sais pas, enfin, français, ça veut rien dire parce qu'il y a des accents du sud, de Bretagne ou de n'importe où. Mais je veux dire, tu vois, tu n'as pas d'accent particulier, en fait. C'est toi proprement ou c'est le cas là-bas pour tout le monde?
J'ai perdu mon accent. Après quasiment 10 ans de vie en métropole, j'ai complètement effacé. Ça s'est fait très vite parce que, en fait, quand on arrive et qu'on a un peu notre accent et notre jargon, bah, on se fait pas forcément bien comprendre. Donc pour m'intégrer tout simplement. En plus, je suis arrivée dans les études supérieures, donc en école. Voilà, il faut essayer de se faire des amis rapidement. Il y a une certaine pression. Et donc, voilà, j'ai gommé mon accent, mais sinon, les personnes là-bas ont des accents. Il y a différentes communautés et chaque communauté a un peu son accent, on va dire.
Bon, bah, c'est très intéressant de savoir ta première grande partie de ta vie là-bas. Je pense qu'on pourra en parler, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'effectivement, de vivre 18 ans sur une île comme celle-ci que je ne connais pas du tout, je veux dire, à la limite, je sais même pas tellement à quoi ça ressemble. On s'imagine les plages de sable fin, ce genre de choses-là, mais ça va au-delà de ça. Forcément, ça fait un peu carte postale, mais je pense qu'il y a forcément autre chose. Cela a forcément ben, forgé ton regard, ton esprit également, ta culture bien évidemment. Donc, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Alors, pour l'interview, bah, tu verras. Hein, c'est comme d'habitude, il y a deux grands moments, deux grandes parties. La première, on va parler ben, photo, des choses très classiques, un peu terre à terre, mais ça fait du bien aussi des fois d'être vraiment râler pâquerette. Et c'est pas du tout péjoratif. Et puis après, on ira sur quelque chose qui est plus de l'ordre ben, de ton business, de la partie entrepreneuriale, de ton métier, de photographe aussi. Voilà, donc on parlera de ça également. Donc, on commence tout de suite par la partie photographique. Juste, ben voilà, donc tu l'as dit, tu es photographe de portrait, mais avant d'aller dans cette partie-là, c'est quoi ton parcours photo? Tu as commencé quand, par quelle occasion, comment ça se fait que, voilà, que tu es rentré dans ce monde-là de la photographie?
J'ai toujours gravité autour de la photo parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui s'y intéresse, qui est passionnée. Mon grand-père avait plein d'appareils argentiques magnifiques. Voilà, ça m'a tout de suite intéressée. Après, quand j'étais jeune, que j'ai eu mon tout premier réflexe numérique, qualité catastrophique de l'époque, on connaît. Je prenais vraiment des petites photos comme ça de la famille, s'il n'y avait pas de démarche artistique forcément derrière. Et puis, avec les années, sûrement la maturité, j'ai commencé à vouloir vraiment créer mes propres images, composer quelque chose. Et le portrait, c'était une évidence, puisque pour m'inspirer, j'ai besoin qu'il y ait des personnes sur la photo. Je vais pas être très bonne en photo de paysage ou en photo de rue ou de choses comme ça, parce que j'avais beaucoup plus de mal à percevoir une idée de composition, etc., sans qu'il y ait un être humain, on va dire.
Tu es déjà là en Nouvelle-Calédonie là-bas? Enfin, tu y es encore ou tu es revenu en métropole quand tu es venu en métropole, quand tu commences vraiment à faire la photographie sérieusement?
Ça a commencé en métropole et seulement après mes études supérieures, où voilà, j'ai commencé à m'intéresser. En fait, quand j'étais plus jeune, je faisais du graphisme en amateur, hein, vraiment sur des forums. Enfin voilà, c'était l'internet a bien changé depuis, mais à l'époque c'était les forums. Et du coup, je m'intéressais quand même beaucoup à tout ce qui était visuel, couleur. J'ai commencé à utiliser Photoshop en autodidacte et bon, ça m'a bien aidé ensuite pour la photo. Mais donc voilà, du coup, je suis passée du graphisme plus loisir adolescent, jeune adulte à la photo, on va dire, de manière sérieuse, grâce à Instagram, énormément grâce à Instagram.
Donc le portrait est venu comme une évidence pour toi. Comment tu pourrais expliquer ça? Parce que voilà, je sais que c'est il n'y a pas forcément de règles d'ailleurs hein, dans la photographie par n'importe quelle porte. Ça peut être le paysage, ça peut être je sais pas, ça peut être l'architecture, l'astrophoto. Pourquoi pas? Il y a différentes portes possibles. Toi, c'était le portrait. Qu'est-ce que tu recherches dans là-dedans? Tiens, moi, ma motivation en tant que photographe animalier, c'est la rencontre avec l'animal, tu vois, qui m'excite tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai l'animal en face de moi que j'attends depuis longtemps, et quand il arrive, j'ai le cœur qui bat très vite, tu vois. C'est vraiment la recherche de la rencontre animalière. Et toi, c'est quoi qui t'excite et qui te fait vibrer dans la photographie de portrait?
Ah, déjà, ça a l'air incroyable, cette expérience de la rencontre avec l'animal, ça me donnerait presque envie d'essayer. La photo de portrait, bah, en fait, ouais, c'est aussi la rencontre avec une personne et je vais essayer de comprendre cette personne, comment elle fonctionne et d'intégrer, bah, sa personnalité, ce qui la rend unique et de montrer ça à travers la photo. Et aussi, je me suis toujours intéressée, j'ai toujours aimé regarder les photos de mode, de magazines, etc. Donc, je pense que ça a aussi forgé ma sensibilité et très sensible au cinéma aussi. Donc,
Oui,
peut-être que
ouais.
ça joue aussi.
Forcément, tout se nourrit de tout ça, finalement, ça c'est sûr. Est-ce que tu as une Alors, moi, je pense que c'est. Alors, je sais pas si c'est un défaut ou quoi, mais je me rends compte que j'ai tendance à regarder les gens beaucoup dans la rue. Genre, je suis au resto. Je peux vraiment, littéralement, me faire attraper. Enfin, c'est moi qui décide de regarder, hein. Mais je peux passer du temps à regarder une personne, essayer de. Je sais pas, d'imaginer sa vie, quoi, tu vois, finalement, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que tu es un peu comme ça, toi aussi, à être curieux des gens?
Alors surtout depuis que je fais de la photo, mais j'ai l'impression que mon regard a vraiment changé. Du coup, je vais regarder les gens dans les transports ou autres, ce qui va attirer mon attention. Ça va plus être une façon de s'habiller, un style particulier. Alors j'ai la chance d'habiter à Paris et il y a des personnes qui ont des styles vestimentaires vraiment incroyables. Donc c'est toujours un plaisir d'admirer les personnes qui ont un talent pour ça. Donc j'admire beaucoup ça. Ou même parfois, je vais juste regarder quand il y a une jolie lumière, bah, comment la lumière va interagir, on va dire, avec le visage de cette personne. Et ça, c'est vraiment depuis que je fais de la photo que mon regard a changé sur les gens que je croise. Ouais.
Donc c'est cool, ça veut dire que tu t'ennuies pas quand tu prends le métro, quand tu te balades dans Paris, quoi.
C'est ça. J'écoute des podcasts et je regarde les gens.
Aussi. Par contre, tu l'as dit, tu n'es pas dans la photographie de rue, hein. C'est vraiment portrait, posé. On va en parler aussi parce que ça m'intéresse beaucoup cette partie-là. Tu vas guider le modèle, on va l'appeler comme ça. Mais non, la photographie de rue, c'est pas quelque chose qui t'attire. C'est que qu'est-ce qui fait que tu n'en pratiques pas ça non plus?
La photographie de rue, j'ai jamais trop compris. En fait, c'est très loin de moi. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne parce que j'ai l'impression qu'il faut être un peu discret, il faut pas que les gens voient qu'on les prend en photo, etc. Je suis pas forcément super à l'aise avec cette démarche. Donc, je vais regarder des super belles photos de rue et je vais dire waouh, les gens ils arrivent à capturer des moments de vie incroyables. Je suis très sensible aux photos de rue, notamment au Japon, parce que les villes japonaises sont magnifiques. Mais moi, je vais pas forcément être à l'aise avec la démarche.
Et puis c'est vrai que si je reviens un tout petit peu sur une chose que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as besoin de connecter avec la personne. C'est ce que tu as dit, hein. Je travestis pas tes propos, je crois pas. Et donc forcément, bah, dans la photographie de rue, tu connectes pas. Enfin, pas de la façon dont toi tu le fais actuellement dans la photographie de portrait. Et ça peut apporter quoi pour toi la photographie de portrait? Comment elle peut vivre derrière pour toi la photographie? Je sais pas si la question est très très claire, mais tu vois, la photographie est faite, c'est pas fini en fait. Elle a une vie derrière cette photographie-là. Tu sais, toi, c'est quoi pour toi une vie réussie de tes photos?
La question est intéressante. Ce serait plutôt ce que ça peut apporter pour le ou la modèle?
Peut-être, ou pour toi, ou pour ceux qui la regarderaient, qui savent pas qui l'a pris, qui est le modèle non plus. Tu vois, finalement, il y a différents types de publics.
Je dirais que dans l'idéal, un portrait réussi, ce serait un portrait qui procurerait une émotion particulière à la personne qui la regarde. Dans un schéma idéal, j'ai pas la prétention de penser que mes photos ou toutes mes photos peuvent procurer une émotion chez les personnes qui les regardent, mais si ça arrive, c'est que j'ai réussi. Donc soit une émotion, une empathie, se mettre à la place de la personne ou s'imaginer l'histoire du personnage, parce qu'au final, on fait un peu une mise en scène, la modèle se transforme dans un personnage. Donc peut-être si la personne peut s'imaginer une petite histoire que cette photo raconte. Moi, je trouve que ça serait un portrait réussi. Peut-être ça fait travailler l'imaginaire des personnes qui les regardent.
Toi, quand tu fais tes sessions de shooting photo, Agnès, les photographies que tu prends, tu les montres au fur et à mesure au modèle que tu as, ou tu le montres pas parce que je sais pas, tu veux pas influencer, par exemple, leur travail ou la façon dont elles vont poser?
Alors en général, je montre. Ça peut arriver, mais c'est très rare qu'il y ait des modèles qui demandent à ne pas voir les photos en cours de shooting. Mais en général, je montre parce que ça permet à la personne de voir si la pose a fonctionné, etc. Ou s'il y a quelque chose qui ne va pas et potentiellement de corriger pour avoir derrière la photo parfaite. Je vais avoir une personne qui dit « Ah oui, attends, là, mes cheveux, ça ne va pas, je vais changer les cheveux de côté. » Et des petites choses comme ça que moi, je ne vois pas forcément parce que je n'ai pas de regard critique sur le physique des personnes que je photographie, alors qu'en général, nous-mêmes, sur notre propre physique, on est assez dur. Et du coup, je veux pas me retrouver dans une situation où la personne se dit « Ah bah oui, bah toute cette série-là de photos, je vais en garder aucune parce qu'il y en a aucune où je me plais, parce que ma mèche de cheveux, elle était du mauvais côté. » C'est quand même vraiment dommage. Donc du coup, je préfère montrer, oui.
Intéressant comme avis, effectivement, ouais, d'accord. Et tu t'es formé comment on va l'appeler ça, comme ça, à cet art photographique qui est la photographie de portrait?
Alors, comment je me suis formée? Alors, au tout début, ce qui m'a vraiment déclenché un peu la passion, on va dire, c'est j'ai participé à un workshop organisé par une photographe que je suivais sur Instagram. Et...
Tu peux la nommer si tu t'en souviens? C'était qui?
Oui, c'est Camille DCGS, c'est l'abréviation de son nom de famille. C'est une photographe qui fait des portraits floraux, artistiques, magnifiques. Et donc, j'adorais son travail. Et puis, elle a parlé d'un workshop. Et puis, ça a piqué ma curiosité. Et j'ai vraiment suivi mon intuition, vraiment, qui m'a dit « vas-y ». Et j'y suis allée avec mon réflexe, mon 50 mm de l'époque, le tout petit, vous connaissez, et mon syndrome de l'imposteur. J'ai pris tout ça, j'y suis allée. et ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, c'est pas compliqué. Il faut y aller. Il faut juste préparer un petit shooting et puis faire des photos, pratiquer. Bien sûr, c'est important de s'informer parce que pratiquer sans savoir où on va, pour moi, c'est pas une bonne façon de progresser.
S'informer, ça veut dire qu'il faut une base technique quand même, minimale?
Oui, pour moi, il faut une base technique minimum, c'est connaître le triangle d'exposition, voilà, comprendre un petit peu comment les choix de focale et la position qu'on a par rapport au modèle vont influencer... déformer potentiellement les corps et les visages, etc. C'est des choses qui sont importantes à comprendre.
La lumière aussi.
Mais la lumière, je dirais que c'est quand même beaucoup la pratique qui joue, parce que c'est l'œil, ouais, complètement.
Ouais.
On commence à comprendre, ouais.
Tu sais que maintenant, en gros, tu vas pouvoir anticiper que la lumière est de tel côté, comme ça, comme ci, et donc du coup, ça va avoir ce rendu-là après. Tu l'anticipes déjà, ça, maintenant. Donc c'est l'expérience, finalement.
Oui, complètement. Il y a certaines lumières que j'aime et que je vais rechercher, et il y en a d'autres que je vais essayer de bloquer avec l'environnement parce qu'elles sont gênantes. Ça, c'est des choses que tout début de ma pratique, je voyais pas, et parfois j'arrivais dans un lieu et je ne savais pas quoi faire avec la lumière. Donc c'est vraiment, pour moi, ça c'est de la pratique, c'est l'œil qui va s'habituer à certaines choses. Et après, les bases techniques, c'est clair qu'il y en a besoin.
Il y en a besoin toujours, évidemment. Ouais. C'est essentiel. Donc, ce workshop qui t'a vraiment... je le comprends comme ça, qui t'a donné confiance dans tes capacités. C'est-à-dire que tu avais déjà tout ce qu'il fallait, j'imagine, mais tu n'en avais pas conscience. C'est-à-dire que c'était un petit peu enfoui. Et ce workshop-là, c'est quoi, une journée, une demi-journée? C'était pas si long que ça, finalement.
Oui, c'était une demi-journée. En fait, c'est ça. J'avais plein d'a priori sur... Oh, mais c'est compliqué de faire les shootings photos, faut trouver des modèles, etc. Et puis au final, en discutant avec la modèle du workshop ou avec la photographe, etc., je me suis rendu compte que ça, c'est des barrières mentales qu'on se met, mais qui sont très faciles à contourner. Et surtout aujourd'hui, grâce à Instagram, encore une fois, je le mentionne, ce réseau. Mais une fois qu'on se dit « Ok, c'est simple, je vais y aller, je vais le faire », c'est là que ça commence à fonctionner.
Bon, bravo, parce que c'est un passage à l'action qui a déclenché plein de choses. Et c'est vrai que on a toujours tendance à avoir cette espèce de frein. Comme tu dis, j'aime bien cette expression de barrière mentale qu'on s'impose un petit peu par protection. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pas se mettre en danger, on veut pas se mettre en difficulté. Mmh. Et puis, probablement que oui, tu l'as un tout petit peu été au tout début de cette session de workshop parce que tu connais personne, parce que tu te dis, mais est-ce que je serai à la hauteur? Et puis, si je dis une bêtise, et puis, si je tiens ma main d'appareil, j'en sais rien. Enfin, on s'imagine plein de choses qui sont vraiment bêtes, finalement. Et tu l'as fait, et ça t'a permis de prendre conscience de tes capacités. Ça, c'est absolument génial, mais je te le dis pour toi, et c'est clairement valable pour tout le monde, et c'est le cas pour moi aussi, évidemment. Et après, tu as dit la pratique, beaucoup la pratique. C'est quoi ton rythme actuel, là, finalement, par rapport à cette pratique-là?
Alors, si on prend juste les collaborations, donc c'est les shootings où personne n'est rémunéré, mais on fait juste un projet artistique tous ensemble, je pense que j'en fais environ 3 par mois. Mm-hmm. parfois plus quand c'est les périodes d'été où moi j'adore l'été, j'adore la lumière, les fleurs, tout ça. Donc forcément, je vais faire plus de photos en été et moins en hiver, mais on va dire qu'en moyenne, ce serait ça. Et en plus de ça, j'ai quelques clients et clientes, surtout des clientes. Et après, bah, globalement, vu que j'ai mon travail à côté, je peux pas forcément faire plus parce qu'après j'ai plus de vie personnelle,
Ouais.
ce qui est problématique. Mais là, ça me prend, je pense, 80% de mon temps libre. Et du coup, le reste du temps libre, c'est pour les proches, les amis, tout ça.
Et donc c'est pas mal quand même, hein?
Oui,
Ah ouais, c'est pas mal.
c'est un gros investissement. Après, c'est un choix. Que j'ai fait de m'investir à fond là-dedans parce que je suis une personne qui a un peu de mal à faire les choses à moitié. Je suis assez perfectionniste et j'avais pas envie de stagner. Et du coup, bah, forcément, avec ce rythme-là, j'ai progressé.
On peut presque parler de sacrifices, mais ce sont des sacrifices qui sont choisis, qui sont qu'on s'impose à soi-même. Donc finalement, peut-être que le mot n'est pas le bon, mais effectivement, il y a aussi un petit peu de ça. C'est comme un sportif de haut niveau qui va passer des heures et des heures et des heures à s'entraîner. Il y a un peu notion de sacrifice quand même forcément derrière, mais parce qu'il y a aussi à la fin ou en cours de chemin des résultats, des moments d'émotion qui sont très forts et qui valent largement le fait de passer par ces soi-disant sacrifices. Qui dit extérieur, pardon, dit lumière naturelle. Alors, on le voit bien sur ton site internet, aussi ton Instagram, donc ça donne des couleurs. Bon, on sait bien, c'est début de journée, fin de journée, voilà, ces fameuses, j'ai oublié le nom tout de suite, c'est
Golden Hour.
la Golden Hour, exactement, merci. Mais aussi, on peut jouer forcément sur des lumières plus dures, donc avec des contrastes un peu plus prononcés, voilà, ou même douces, s'il y a plein de nuages, par exemple. Mais le truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est bah, comment tu fais pour gérer cette situation de lumière qui, par définition, tu ne la maîtrises pas. C'est-à-dire que ça peut être très changeant, quoi. Alors, un nuage qui passe, c'est, je veux dire, c'est tous tes réglages qui sont plus les bons, donc il faut changer. Alors après, on s'adapte. Mais toi, comment tu fais pour gérer, allez, cette lumière naturelle qui peut donc être très belle, mais qui peut aussi te poser des gros soucis de constance dans ton travail?
Ouais, la lumière naturelle, bah, j'adore ça, évidemment. Ça rajoute du challenge, parce que quand on est en studio avec nos petites lumières contrôlées où tout va bien, on se retire complètement la charge mentale de la lumière et on se concentre uniquement sur les poses, etc. Voilà, quand on est en extérieur, il faut y penser à la lumière. Alors, bon, à Paris, il y a beaucoup de grisaille. Donc, les journées de grisaille, c'est fastoche. Ça change pas, ça bouge pas, c'est tout le temps la même chose, c'est doux, c'est facile, etc. Les journées de grand soleil, en plein été, c'est un peu l'enfer, on va pas se mentir. On fait deux pas où on attend 2 minutes et hop, il y a un nuage, comme tu disais, et c'est plus les mêmes réglages. Pour essayer de me faciliter la vie, en prenant en main mon boîtier, je me suis habituée à faire certains réglages très rapidement. Donc en général, s'il fait extrêmement beau, je vais ouvrir quand même beaucoup parce que le bokeh dans les portraits, on adore, mais pas trop non plus parce que sinon il y a trop de lumière qui rentre. Je baisse les ISO au maximum et ensuite je joue sur la vitesse.
Ok.
Les 80% du temps, juste jouer sur la vitesse est suffisant.
Donc tu gardes toujours constamment la même ouverture.
Je vais en général garder la même ouverture. Ça peut m'arriver de fermer un petit peu plus dans des shootings urbains où j'ai envie que l'arrière-plan soit plus net,
Ok.
mais c'est assez rare parce que du coup j'aime bien l'ouverture 1.82. C'est assez esthétique en
Ok.
portrait, clairement.
Et donc, ouais, mais en pleine lumière, c'est vrai que du coup, grosse journée d'été, il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui rentre. Alors, tu dois shooter dans des vitesses des fois très élevées, finalement.
Ouais, des vitesses très élevées.
Ouais.
Merci la technologie
C'est
actuelle parce
ça.
que clairement nos appareils photo vont très très vite. Donc je shoote aussi vite que des photographes de sport, mais pour faire des portraits, voilà.
Donc, finalement, ça sert à rien, mais c'est là donc on en profite.
Voilà, exactement. On pousse l'appareil à ses limites. Sinon, bah bien sûr, on va devoir apprendre à fermer un petit
S'il
peu
faut,
et
ouais.
à trouver d'autres moyens de rendre la composition intéressante. Donc pas juste uniquement mettre du flou autour du modèle ou de la modèle, mais essayer de faire un peu autre chose.
Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, mais dans le bon sens du terme, tu as dit, c'est dans le studio c'est bien parce qu'on s'enlève la charge mentale de la lumière puisqu'elle est maîtrisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, en amont, on va pas se prendre la tête, des fois, même
Oui.
souvent j'imagine, parce qu'on a différents. En fait, on fait ce qu'on veut, donc du coup, on peut aussi se prendre la tête là-dessus
Oui.
et faire des réglages au millimètre, quoi, hein, très très fin, décaler un tout petit peu, voir le résultat. Bref, on peut passer beaucoup beaucoup de temps à faire ces pré-réglages de lumière, mais une fois que c'est fait, clairement, après, on n'a plus à s'en occuper. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça enlève de la charge mentale. Est-ce que, du coup, peut-être que pour s'entraîner à faire du portrait et donc aller sur le comment dire, être meilleur dans le posing, moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur en tant que vraiment débutant dans la photographie de portrait parce que j'ai envie vraiment d'en faire. Mais un truc qui me fait peur, c'est ça, moi. C'est, en gros, de demander, on va dire ça simplement, de demander au modèle de se mettre comme ci, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, moi, pour l'instant, quelque chose qui m'effraie un petit peu. Et en plus, c'est vrai que si on rajoute la lumière, ça fait quand même pas mal de contraintes. Et puis aussi, peut-être d'ailleurs, le regard des gens dans la rue, si on est dans la rue, il y a des gens qui passent, machin, ça peut être aussi une espèce de pression supplémentaire. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer finalement là-dedans, comme moi par exemple, pour ne pas avoir à tout gérer d'un coup?
Oui, alors ce que j'ai commencé à faire personnellement, je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est mon expérience. J'ai commencé à faire des collaborations avec des personnes qui sont un minimum à l'aise avec le fait de poser et d'être devant l'objectif, parce que justement, ça m'enlevait ce besoin de guider. Et ça, je le fais toujours parce que artistiquement, ça me permet d'être beaucoup plus libre parce que là, du coup, je m'enlève une charge mentale qui est celle du posing. La personne me propose des poses super intéressantes. Parfois, je vais lui dire « Ah, refais ça, mais un peu plus comme ça », mais je vais pas devoir, pendant une heure, sortir des idées de poses de ma tête. Là, c'est la personne qui va proposer. Et là, artistiquement, c'est plus intéressant parce que je vais penser à ma compo, à ma lumière et je vais oublier les poses. Donc ça aide au début. Après, si on veut commencer à shooter des clients, des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de poser,
donc des gens, voilà. On va dire des particuliers qui veulent avoir une belle photographie d'eux, mais en gros, ils n'ont jamais fait ça, quoi.
Ouais, alors du coup, pour ça, ce que j'ai fait, parce que à force d'apprendre avec des personnes qui savent poser, j'avais des grosses lacunes là-dessus, honnêtement. Il faut apprendre des petites astuces toutes simples. Qui peuvent s'apprendre peut-être dans des workshops avec des photographes ou dans des bouquins ou des choses comme ça ou sur internet, sur des vidéos YouTube, il y a plein de sources. Ouais, il y a énormément de sources qui sont vraiment utiles là-dessus parce que c'est un problème pour énormément de gens, donc du coup il y a plein de photographes qui proposent des solutions. Et du coup de mémoriser quelques astuces simples qui comment dire ça,
détendre un petit peu la personne en face, non? Qui vont lui permettre de, ouais, en gros, de lâcher un peu de la tension.
C'est ça, des petites choses simples et rapides qui font qu'on va très vite voir le problème et le corriger. Donc, par exemple, une personne qui écrase son bras contre son buste, du coup, ça fait un gros bras. Ok, ça, on connaît par cœur. Donc, on lui dit, vas-y, relève un petit peu ton bras légèrement. Le menton qui descend, ça fait un double menton. Hop, ok, relève légèrement ton menton. Pas trop, parce que les personnes, après, ils lèvent la tête.
Peut-être racheter le nez, voilà.
Voilà. Donc, c'est des petites choses, mais qui viennent, en fait, à force aussi, des petits réflexes à avoir. Et ça peut être intéressant, ce que je fais aussi en général, c'est que je brief la cliente. Bon, j'ai plus de clientes que de clients. Donc, je brief la personne au tout début du shooting en lui disant « Ok, les bases en posing, c'est ça, 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 ça. Les trucs à pas faire, c'est ça et ça. » Et du coup, la personne, au fur et à mesure, elle va devenir autonome. Et je vais lui donner du feedback positif quand elle fait des bonnes choses. Et Excellent. Je vais pas trop accentuer sur le négatif. Je vais dire « Ouais, attends, on va essayer un peu plus comme ça. » Et au fur et à mesure, elle va se sentir plus à l'aise et donc elle va réussir à faire, en général, des poses qui sont quand même naturelles pour elle et qui sont quand même des bonnes poses de photo. On trouve un juste milieu entre les deux. Je vais pas faire pantin avec la personne, prendre son bras, le bouger d'un centimètre. C'est pas mon fonctionnement. Il y a des gens qui font ça et qui le font très bien, mais c'est pas mon fonctionnement.
Ouais, donc tu veux dire qu'il y a des règles en posing, un peu comme les règles, enfin pas un peu, comme les règles en photographie, donc les règles de cadrage, de composition, la règle des tiers, ligne directrice, ça on connaît. Dans le posing, c'est, y en a aussi. Est-ce que ces fameuses règles en photographie, on le sait, elles sont là, elles existent, elles sont très bien, elles permettent de cadrer les choses, de faire des choses esthétiques, équilibrées, on va dire, mais on a parfaitement le droit également de s'en affranchir et puis de faire tout le contraire, si on veut faire tout le contraire. Et limite, c'est l'art, on fait ce qu'on veut. En posing, si tu respectes pas ces règles-là, le bras, on voit pas, il n'y a pas d'image évidemment, mais je rapproche mon menton de ma poitrine, ce côté un peu comme ça renfermé. Si tu le respectes pas, là du coup, est-ce qu'on peut dire, oui, mais c'est de l'art, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est ça ou il y a quand même vraiment des choses, on peut pas le faire, quoi.
En fait, ça dépend du but recherché, mais si le but c'est de mettre en valeur la personne, dans ce cas-là, on va user de quelques astuces et artifices pour que la personne soit mise en valeur dans la photo, puisque une photo va figer la personne et donc potentiellement le fait d'avoir les défauts, on va dire, hein, les défauts c'est une façon de parler, mais voilà, d'avoir des petits problèmes comme un double menton qui se crée ou des choses comme ça qui sont figées, bah forcément ça va attirer le regard dessus, ça va les accentuer. Et c'est pas ce qu'on recherche. On veut montrer la personne sous son meilleur angle, son meilleur jour. Et donc pour ça, bah oui, voilà, il faut se tenir droit, faut faire un petit effort.
Ouais.
Récemment, j'ai posé pour une amie qui est photographe et j'ai vraiment lutté très fort pour tenir mon dos droit pendant toute la session.
Alors c'est bien, c'est une bonne thérapie aussi finalement, de prendre conscience de ce qu'on fait pas bien d'habitude.
Complètement, parce qu'on est détendu, etc. Mais oui, ça rend moins bien en photo. Et oui, c'était un peu d'effort sur le moment, fallait y penser, elle me le rappelait souvent, et puis à la fin, je suis hyper contente des photos, parce que ça me montre sous mon meilleur jour, en fait,
ouais.
ça me met en valeur.
C'est qui cette photographe?
C'est Colline... Ah mince, ben, faudrait que j'arrive à épeler son Instagram.
Parce que sur ton site, on te voit en photographie, évidemment, tu te présentes sur la page. Est-ce que c'est cette personne-là qui signe en bas des photos?
Non,
c'est une autre
personne encore, donc c'est Colline IVLF Photographie, c'est la
Colline, IVLF Photographie, c'est un très joli prénom, je le dis parce que ma fille s'appelle Colline, donc évidemment c'est
un
très beau prénom. Est-ce que tu mets les pieds dans le plat à la personne, là je parle vraiment de personnes que tu as photographiées, dont c'est pas le métier, ou en tout cas qui n'ont aucune expérience et qui ont de l'appréhension, mais qui veulent quand même avoir des belles photographies d'elles ou d'eux. Est-ce que tu mets les pieds dans le plat, et tu veux leur dire, en gros, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes pas chez toi, on parle souvent du meilleur ou du pas joli profil, tu vois, mais l'idée, je sais pas, elle va te dire, bah voilà, moi j'aime pas mon nez de profil, je le trouve pas beau. Alors, comment toi tu réagis par rapport à ça? Parce que là, je me dis, il y a deux façons de faire. Soit toi, en tant que photographe, bah justement, c'est un peu ton job de jouer d'artifice pour lui montrer quand même que bah qu'elle est belle ou qu'il est beau malgré son nez, ou que bah justement, non, ok, lui il aime pas, bah on va pas là-dessus. Tu fais quoi toi?
Alors ça va énormément dépendre de chaque personne. Ça m'est déjà arrivé que du coup la personne me dise ça et au début je fais très attention et puis au fur et à mesure je laisse l'inspiration venir, je laisse faire, je teste plein de choses et puis au final la personne me dit « Ah bah tu vois finalement mon nez, pas si mal ». Et là je suis très contente. Après ça peut vraiment arriver qu'il y ait des personnes qui soient un peu... vraiment qui ont un gros blocage et je suis pas leur thérapeute, je suis pas là pour leur apprendre à s'aimer de manière vraiment profonde. Donc si elles ont un gros blocage sur un certain profil et qu'elles me disent bah il y a aucune des photos avec ce profil là que je vais garder, bah j'insiste pas. C'est pas mon job, donc l'important aussi c'est que la personne ait des photos dont elle est satisfaite, donc je vais m'adapter aussi selon le ressenti. Toujours pareil, en montrant les photos au fur et à mesure aussi pour que moi je m'adapte aussi et que je fasse ce qui correspond à la personne.
D'accord. Dernière question sur cette partie photographique et puis après on ira plus sur le côté business. Tes spots photos, tu fais comment pour aller les trouver, pour les repérer? T'en as pas, t'as des spots favoris, tu te promènes avec la personne, tu échanges. C'est quoi ton processus d'identification de tes spots photos?
Alors, il y a des spots photos incontournables sur la sphère Instagram, mais justement, je vais essayer pas de tout le temps aller à ces endroits-là parce que ça fait répétitif. Ou alors, si je vais dans un spot photo qui a été déjà énormément utilisé, je vais essayer d'apporter quelque chose en plus. Paris, c'est une ville d'une richesse incroyable. On a de tout. On a des buildings bétonnés, des rues haussmanniennes, des parcs incroyables. On a tout. La forêt, on a vraiment tout. Donc, on a énormément de chance là-dessus. Du coup, ça va plus être en fonction de la direction artistique du shooting, si c'est un projet à moi, ou en fonction des souhaits de la personne, si c'est un client. Et là, j'ai ma petite liste de spots que j'apprécie particulièrement qui m'aide à décider rapidement. Puis pour découvrir des nouveaux spots, soit je me déplace, mais j'habite pas dans Paris, donc ça peut être un peu compliqué, ou soit je vais utiliser Google Street View.
Okay.
Très pratique.
Excellent.
Très pratique pour identifier des jolies rues, notamment j'adore les jolies rues un peu où il y a des, où les habitants vont mettre des fleurs devant leurs habitations, etc. Ça, j'adore. Donc, j'essaie de repérer ça dans Street View.
Donc, tu te promènes virtuellement dans Paris, complètement, de clic en clic, et tu arrives comme ça à choper des endroits. Ah, c'est génial, ça. Et donc, tes spots, après, j'imagine que tu mets des points d'intérêt sur Google Maps, non ? Que tu retrouves après avec ton téléphone sur le lieu directement ?
Oui, c'est ça, complètement. Okay. Je peux conserver un point GPS ou juste un nom de rue, et puis du coup, ou la station de métro la plus proche.
Cool. Enfin, voilà. Google Street View est quand même maintenant très répandu, à mon avis. Ils ont dû faire la plupart des villes, même les villes moyennes en France. Je pense que ça.
La France est intégralement.
La France intégrale. Bon, bah, voilà. Ok, parfait. Ils sont trop forts. Donc, tu vends tes services de shooting photo. C'est pas une question péjorative, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais tu vends, des guillemets avec tu vends que tes services de shooting, hein. Il n'y a pas d'autres ventes, d'autres produits photos.
Oui, pour le moment, c'est principalement des services de shooting aux particuliers, parfois aux professionnels aussi. Après, pour les professionnels, comme je travaille en semaine, c'est beaucoup plus contraignant puisque ils vont avoir besoin qu'on soit disponible en journée. Je sais pas, le mercredi, moi le mercredi, je ne peux pas forcément m'absenter de mon travail pour faire ça. Okay. Donc ça va surtout être des particuliers parce que c'est plus souple niveau horaire et jour. Et après, ça m'est arrivé de vendre aussi des petites formations Photoshop comme ça pour des personnes, mais c'est plus rare.
D'accord. Okay, donc ton principal chiffre d'affaires est fait avec la vente de sessions de shooting photo. Oui. On va en parler justement après de tes clients. J'ai ma petite liste de questions là qui attend bien sagement. Juste avant ça, et c'est une vraie question parce que c'est pas quelque chose qui peut forcément venir naturellement. C'est pas parce qu'on fait de la photographie de portrait ou c'est pas parce qu'on fait de la photographie animalière ou d'astro ou d'architecture, que ça change encore de rue, que on va forcément aller sur l'aspect business. C'est pas une suite naturelle, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit un jour, je vais vendre mes services de shooting.
Alors, le cheminement que j'ai pris, ce qui s'est passé en fait, ça a été assez spontané. Sur Instagram, j'ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui voulaient faire des photos avec moi et qui n'étaient pas forcément des modèles ou avec qui j'avais pas forcément envie ou besoin de construire un projet personnel. Et donc petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans la réflexion de « j'ai un savoir-faire, il y a des personnes qui en veulent, donc pourquoi ne pas mettre des prix là-dessus et puis dire aux personnes « non, je vais pas construire un projet avec toi, concrètement, poliment bien sûr, mais je propose des tarifs et si ça t'intéresse, tu peux commander un shooting, etc. » Et petit à petit, j'ai eu des personnes... jeunes modèles qui veulent construire leur book pour travailler dans le métier, ou juste des personnes qui veulent des jolies photos d'elles et tout, qui tombent sur mon compte Instagram et qui se disent j'aimerais bien, ou qui cherchent, il y a des personnes aussi qui cherchent un photographe, qui tapent photographe Paris sur Instagram et qui vont tomber sur mon compte ou sur le compte de collègues à moi ou n'importe.
D'où l'intérêt des hashtags, par exemple.
Oui, l'intérêt des hashtags et l'intérêt du nom aussi sur Instagram. Moi, je me suis nommée Agnès Photographe Paris. Ça aide.
C'est dedans. Le mot Paris est dedans, quoi.
Il y a photographe. Exactement. Et la localisation, très, très importante. Il y a des personnes qui, dans leur bio Instagram, ne mettent pas où ils sont basés. C'est pour moi une erreur.
Si on a envie d'être repéré comme étant un photographe dans la ville dans laquelle on est, évidemment. Mais le conseil est vraiment hyper, hyper judicieux. Avant que des gens te repèrent sur Insta, il a fallu quand même que toi, tu te constitues ton book, en fait, ta photo, tes photographies à publier, sans être connu, finalement. Ce sont des collaborations que tu fais avec des personnes qui, elles, en retour, veulent des photographies. Donc, en gros, c'est un échange de bons procédés. C'est comme ça qu'on fait au début, quand on veut avoir un pack de photographies à publier.
Oui, c'est exactement comme ça. Donc, il y a en fait plein de personnes qui adorent être modèles pour le procédé artistique, parce que c'est des personnes qui aiment la mode, donc ça permet aussi de construire des tenues, etc. C'est intéressant à faire. Donc, au tout début sur Instagram, j'avais pas non plus des centaines de milliers de followers, hein, mais j'ai passé une petite annonce en story en disant « Oui, coucou, je vais m'entraîner à faire des photos, donc si ça vous intéresse, envoyez des messages. » Et j'ai eu beaucoup de messages, trop même, j'ai même pas pu accepter tout le monde parce que c'était pas mal. J'étais assez surprise, mais ça m'a vraiment lancée. Et puis au fur et à mesure du temps, je cerne mieux ce que je veux faire dans les projets personnels, donc les collaborations. Et donc maintenant, je vais plus être dans une démarche d'aller contacter directement les modèles avec qui j'ai envie de travailler. Mon travail est plus qualitatif qu'avant, donc forcément j'ai plus confiance en moi aussi pour aller proposer à des modèles assez confirmés de faire des photos ensemble. Et là, c'est vraiment l'idée de... Autant au tout début, c'était bon, on choisit un endroit, on va faire des photos et on est content. Maintenant, je suis plus exigeante, je vais plus loin, je vais essayer de construire une histoire autour des photos, une direction artistique, travailler la tenue avec la personne, potentiellement lui prêter des vêtements, travailler le maquillage, etc. pour faire quelque chose de plus abouti.
Je sens qu'il y a vraiment un vrai temporalité dans ce que tu dis là, c'est-à-dire que il n'était pas question de brûler les étapes, c'est-à-dire que t'es pas allé tout de suite aller chercher, contacter des modèles confirmés, où t'as pas tout de suite été hyper j'imagine pas rigoureuse, mais en tout cas exigeante dans le choix des modèles, c'est-à-dire qu'au départ, ben il faut se faire connaître, qu'on accepte bon des choses sur lesquelles on va un petit peu se forcer peut-être. Mais c'est un passage obligé, et puis c'est en gros, c'est comme ça qu'on se forme également, quoi. Hein. Et puis au fur et à mesure, bah, tu peux justement, c'est ce que tu dis en tout cas, hein, pouvoir être plus exigeante, parce que bah, tu t'améliores, parce que tes photographies sont plus qualitatives, parce que tu as aussi, j'imagine, on va en parler également, hein, de ta touche artistique, ta patte qui est bien présente. Donc les gens aiment ou aiment pas, mais quand ils aiment, en gros, je veux dire, c'est plus qu'ils aiment, quoi. C'est ils kiffent réellement. Donc ça joue également beaucoup. Donc voilà, tout ça, c'est, je le dis également, hein, en mode un peu conseil, pardon, mais voilà, il y a cet aspect. Temporalité, on met pas la charrue avant les bœufs et au départ, ben oui, on va peut-être devoir passer par des moments pas forcément les plus kiffants en termes de projet photographique, mais ça fait partie du job. Et après, on pourra aller peut-être se permettre d'aller chercher des choses un peu plus, comment dire, originales, ou en tout cas qui nous font plus vibrer.
Ouais, c'est ça. Et encore, je suis probablement qu'au début de cette longue évolution photographique, je vois des photographes que j'admire qui font des mises en scène, des directions artistiques vraiment plus complexes, plus abouties que ce que je fais, et je rêve d'en arriver à ce niveau, mais il faut, voilà, passer les étapes petit à petit. Et c'est pas parce qu'on est plus connu et qu'on a un beau book qu'il faut se permettre de contacter les modèles de manière irrespectueuse, parce que j'ai des amis modèles qui reçoivent parfois des messages assez honteux de personnes qui partent
de photographes,
du principe...
hein, de photographes,
oui,
hein.
De photographes.
Ouais. Des hommes, j'imagine, souvent,
et qui partent du principe qu'elles vont automatiquement accepter
parce que c'est eux, quoi. Ouais.
Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est assez irrespectueux. Il faut laisser la fenêtre à la modèle de pouvoir refuser si elle a pas envie, qu'elle n'aime pas forcément notre travail, qu'elle a autre chose à faire, peu importe, mais il faut lui laisser la porte ouverte, parce que rien de pire qu'un projet perso où on est censé s'amuser et où les gens se forcent à être là. Ça, c'est pas possible.
Bah, tu as très bien fait de dire ça, c'est une réalité que je ne connaissais pas et qui j'imagine existe, puisque tu l'as décrit et que tu as des amis qui la vivent, donc c'est clairement, c'est quelque chose qu'il faut clairement dénoncer, en fait, hein. Je pense que le mot est le bon. Ouais, donc en tout cas, patience, résilience, de la rigueur dans l'entraînement, dans la pratique, mais tout vient, alors ce sont des vieux poncifs, mais là je pense que c'est vraiment vrai, tout vient à point qui sait attendre, et puis voilà, il faut travailler, être rigoureux, quelques sacrifices quand même parfois, hein, voilà, en termes de temps, d'argent également, des investissements, mais tout ça finit par toujours par payer. Quelle était ta première difficulté, Agnès, toi, dans le passage? Alors, je ne sais pas si c'était fait en une seule fois ou c'était assez doux, tu nous le diras, mais en gros, il y avait un moment donné quand même où tu t'es fait payer une première fois. Est-ce que ça t'a changé dans ta façon d'être en tant que photographe? Est-ce que ça a été quelque chose de violent? Au contraire, ben, ok, on paye, c'est voilà, ça ne change rien. Tu t'es senti comment là-dessus?
Alors, au départ, déjà, c'est très difficile de définir ses propres prix. Puisque on est auto-entrepreneur la plupart du temps quand on est photographe, donc on est seul face à nous-mêmes et il faut se dire ok, combien ça vaut, je sais pas, on est perdu. En plus, on sait pas exactement combien de temps on passe sur chaque chose, donc c'est assez difficile. Souvent, les guides pour fixer nos prix disent ah bah vous calculez combien de temps de déplacement vous avez, combien de temps vous passez sur ça.
C'est variable.
Ouais. Et puis à la fin, vous faites une moyenne et vous dites machin, mais comment je peux faire une moyenne si j'ai fait aucune prestation client et que du coup j'ai aucune idée de combien de temps je vais passer sur place et à faire mes retouches, etc. Donc au début on y va un peu au doigt mouillé, enfin je connais pas grand monde qui a instantanément trouvé les bons prix à fixer. Moi je me suis probablement sous-estimée au début par peur de demander trop cher justement. Et il y a un peu, il y a effectivement quelque chose d'assez bizarre à se faire payer pour quelque chose qui était à la base une passion. Faut faire attention à pas perdre de vue la passion pour l'appât du gain. Après, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de la photo pour vivre. Enfin, je dis c'est une chance dans le sens où j'ai mon métier que j'apprécie et du coup, je ne compte pas quitter mon métier pour devenir photographe à plein temps. Je connais des personnes qui, au contraire, ont un métier qu'ils détestent et tout ce qu'ils veulent, c'est quitter leur métier et devenir photographe à plein temps. Donc, c'est plus difficile. Je pense que c'est plus difficile de construire quelque chose de pérenne en se disant je vais pas sacrifier ce que j'aime dans la photographie pour l'argent. Des fois, c'est compliqué.
Oui, parce qu'une question de temps, on revient là-dessus, mais c'est vrai que toi, tu prends ton temps là-dessus, tu n'as aucune contrainte de timing, tu n'as pas une deadline qui fait qu'après, oulala, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas. Tu as ce confort-là qui effectivement te permet de construire les choses tranquillement. T'as dit t'as parlé de bon prix. Au départ, pour toi en tout cas, tu pas assez cher, quoi, en gros. Donc, c'est pas les bons prix, mais et actuellement, donc tu as l'expérience, donc les prix sont bons pour toi en tout cas, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont bons pour toi? Je dis pas dans l'absolu, hein, il n'y a pas de bon prix dans l'absolu, mais là, pour toi actuellement, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien avec ces prix-là?
Alors, je me sens bien avec ces prix-là parce que ça correspond déjà au temps que je passe sur la totalité d'un shooting. Ça correspond à l'estimation de la qualité que j'ai de mon travail.
Okay.
Et donc, si je me compare à d'autres photographes, donc des photographes plus expérimentés que moi vont être plus chers. Des photographes plus débutants vont être moins chers, même si être moins cher que moi, ça veut vraiment dire être pas cher du tout. Et c'est un peu problématique. Parce que les photographes qui font 50 euros les 20 photos, arrêtez, s'il vous plaît. C'est compliqué après pour nous de justifier des prix plus élevés quand il y a des personnes qui
tirent le bas, qui divisent le bas, quoi, complètement, ouais.
C'est ça. Ouais. Et encore sur Instagram, on est dans une niche où la clientèle est très jeune, donc souvent étudiants, donc pas forcément très fortunés. Et qui a un peu de mal à se dire, oula, je vais sortir 100 euros pour des photos. Ça, c'est un peu compliqué d'éduquer les personnes sur le prix et sur le fait qu'un shooting, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les mois. On fait ça une fois, deux fois par an, peut-être.
Si bon, on adore vraiment. C'est pas pire que de s'acheter une robe ou une paire de chaussures ou je sais pas quoi. Hein.
C'est ça. Ouais. Mais c'est encore un peu difficile d'éduquer les personnes, mais c'est vrai que si on va sur Google et qu'on tape photographe Paris et qu'on voit les photographes qui ont pas leur clientèle qui vient d'Insta mais qui vient plutôt de recherches sur Internet et tout, leurs prix sont 3-4 fois plus élevés que ce qu'on voit sur Instagram.
Ouais, parce que c'est pas la même clientèle au bout du compte, en tout cas c'est pas les mêmes genres de communautés.
Exactement, je pense que ça va être des clientèles de personnes qui ont déjà peut-être plus de 30 ans et qui du coup ont un certain revenu et qui peuvent se permettre et qui potentiellement dans leur éducation ils accordent une valeur aux photos qui n'est pas la même que sur Instagram, où sur Instagram on veut de la quantité pour remplir notre feed, pour poster souvent, ce genre de choses.
Tu as dit que c'est dur d'éduquer. Est-ce que justement toi tu essayes à travers ton compte Instagram d'éduquer, tu peux mettre plein de définitions derrière, mais moi je pense à une chose, quand tu as parlé de ça, quand tu as lancé le mot éduquer, j'ai pensé à expliquer aux gens que ça a un coût, que ce que tu proposes ça a un coût, et que c'est pas juste appuyer sur un déclencheur avec le doigt qui bouge, effectivement ça coûte zéro, quoi. Moi je pense à ça quand tu dis le mot éduquer. Est-ce que tu pensais à ça également ou à autre chose?
Oui, c'est ça complètement. Alors je le fais pas forcément de manière hyper régulière, mais c'est vrai que c'est important de montrer, par exemple par des stories ou autres, bah, le temps qu'on passe sur les retouches, qui est énorme, le temps qu'on passe, ou même le prix du matériel.
Oui.
C'est important aussi de mettre les chiffres en face, parce que un boîtier professionnel, c'est un coût. Et très souvent, les clients en shooting me demandent aussi, ah ouais, ton boîtier, ton objectif et tout. Ah ouais, la qualité des photos, elle est incroyable quand même et tout. Je fais, ah bah oui, la qualité des photos, mais il y a quand même plus de 2000 euros de matériel là. Et encore, moi, j'ai pas le boîtier le plus extraordinaire du marché. Hein.
On n'en a pas parlé d'ailleurs, mince. Hop, petit retour en arrière, Agnès. un petit retour vers le futur. Sur la première partie de l'émission, je l'avais écrit la question, je crois d'ailleurs, mais tu vois, je l'ai sauté tout simplement. En gros, mais en quelques secondes, hein, c'est quoi ton matos, marque, tout ça? Tu photographies avec quoi?
Alors, je suis chez Canon, j'ai un 6D Mark II. C'est mon premier boîtier plein format, donc très très contente depuis que je l'ai, c'est vraiment incroyable, j'adore. J'ai un objectif 50 mm 1.4 de Canon et un 35 mm 1.4 de chez Sigma, dont je suis très satisfaite aussi des deux focales.
Tu peux redire la première focale, ça a coupé.
C'était un 50 mm.
Tu l'as plus, hein, c'est ça?
Je l'ai toujours, ouais, j'utilise les deux.
Et le deuxième, c'est un...
Un 35.
Ok, alors, bon, question assez basique, on reste un tout petit peu sur l'aspect matériel là, si tu veux bien. Entre 35 et 50 mm, t'as 15 mm d'écart. C'est pas énorme, en fait. Ça fait quoi? Quelle est la différence pour toi? Et qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt l'un ou plutôt l'autre?
En général, je vais utiliser le 35 quand je suis plus dans une optique photo de mode, urbaine, plutôt avec des personnes qui sont à l'aise avec l'objectif, parce que 35 mm, ça inclut quand même une certaine distorsion.
Oui.
Ça commence à être pas mal, la distorsion, à 35 mm. Et plus pour l'urbain aussi, parce que c'est un objectif qui me permet d'intégrer le décor dans la composition, donc de jouer avec les lignes, okay. Ce genre de choses que j'adore faire.
Okay.
Tandis que le 50, c'est un objectif, une focale qui est plus proche de l'œil humain, donc plus naturelle et moins choquante, notamment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être devant l'objectif. Voilà, ils vont se reconnaître facilement. D'accord. Dans cette focale. Et peut-être aussi plus pour quand il y a du végétal, ça permet de faire des jolis bokehs, ce genre de choses. Voilà, j'envisage l'achat d'un 85 mm pour avoir la sainte trinité du portrait. Mais pour l'instant, voilà, en termes de budget, c'est quand même un certain coût.
Donc, ouais. Surtout à des ouvertures comme ça, à des grandes ouvertures, c'est vite très 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 cher sur ces cailloux-là. Et encore ouais. Plus sur du plein format. Ok, voilà, donc parenthèse fermée sur le matériel. Mais c'était nécessaire parce que c'est évidemment une partie importante du travail du photographe. Donc tout à l'heure, on parlait de... Enfin, j'en ai parlé, il me semble, du style photo, de ta patte photographique. Ben justement, là, je vais mettre les pieds dans le plat, clairement. On va sur ton site, donc Agnès Boutin, de T1,
oui.
.com. Et donc, d'entrée... Direct, je crois que la première phrase, c'est « Tu annonces la couleur », et je l'ai même noté, tu vois, je vais la lire. Je cite une phrase donc sur la page d'accueil de ton site qui est « Je réalise des photos lumineuses et colorées pour les particuliers et les professionnels ». Et j'adore cette phrase-là parce que, je sais pas, tu l'as fait consciemment ou inconsciemment ou c'est quelque chose qui t'est venu naturellement, mais c'est top parce que c'est planté. Je veux dire, c'est planté, c'est le décor est planté, quoi. C'est-à-dire, celui qui lit ça... Il sait si c'est pour lui ou pas pour lui.
Mmh.
Si c'est pour lui, génial, il va aller plus loin. Si c'est pas pour lui, ben ok, il va voir ailleurs. Donc là, clairement, c'est typiquement un positionnement de marketing, quoi. Hein. C'est photographie, portrait, photo, lumineuse, colorée, particulier, professionnel. N'empêche que ce positionnement-là, marketing, finalement, il est directement issu, il vient directement de ton style photo, qui est celui des photographies lumineuses et colorées. Je pense même que sur ton site, tu as mis aussi un autre mot, je sais plus lequel exactement.
J'ai dû utiliser le mot vibrant.
Vibrant, c'est exactement, vibrant, c'est ça aussi. Voilà, donc je l'ai pas mis là, le troisième. Finalement, ton positionnement, il est venu assez naturellement parce que c'était ton style.
Oui, c'est ça, complètement. L'idée de la page d'accueil du site, j'ai été accompagnée par une webdesigneuse hein, pour faire le site.
Ça aide.
Ça aide beaucoup parce ouais. qu'elle m'a forcé un petit peu à avoir cette réflexion sur qu'est-ce que c'est mon style,
Excellent.
Qu'est-ce qui me différencie des autres. Parce que c'est un marché où voilà, y a énormément de photographes. Et donc, si les personnes qui visitent le site, effectivement, comprennent pas instantanément qui je suis, de toute façon, ils vont pas comprendre et ils vont s'en aller. Donc, c'est voilà, autant qu'ils sachent tout de suite où ils atterrissent et qu'ils sachent tout de suite si ça les intéresse, effectivement, très juste. Et donc, ouais, j'ai eu cette réflexion et en fait, c'était pas du tout évident hein, de me définir, parce qu'en fait, on fait des choses un peu à l'instinct et on
c'est
sait
ça.
Pas trop pourquoi on le fait.
Naturellement, quoi, ouais. Ouais.
C'est ça. En fait, j'ai ouvert plein de mes photos là sur mon ordinateur, j'ai étalé sur mes écrans comme ça et j'ai fait, ok, qu'est-ce qu'il y a en commun
le
sur toutes ces photos et clairement la couleur très 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 importante dans ma démarche, la colorimétrie, moi ça me passionne. Dans une autre vie j'aurais peut-être été coloriste de cinéma, je sais pas, mais j'adore
ou
vraiment
plus tard, ou plus tard dans une prochaine vie hein.
La photographie dans le cinéma, c'est un métier qui me fascine complètement. Et la luminosité, parce que, alors là, je pense que clairement, c'est les origines de Nouvelle-Calédonie qui jouent, parce que, en fait, dans ce pays, il y a une luminosité qui est exceptionnelle, mais qui est aussi très difficile à gérer pour les photographes. Souvent, c'est dur de pas cramer les photos parce qu'il y a trop de soleil. Et donc, la luminosité, pour moi, ouais, c'est super important. Je suis très inspirée quand il fait beau, quand le soleil est puissant, quand ça crée des lumières vraiment bien dessinées sur les personnes. J'adore ça.
Ouais. Donc en tout cas, ce que tu dis, c'est très puissant, très profond. Et donc je vais un peu rebondir là-dessus. En tout cas, souligner au marqueur ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment très intéressant. Deux choses, je pense, qui sont celles que... ce qui peut sauter aux yeux de ceux qui vont voir nos photographies, eh bien, c'est pas quelque chose qui nous va nous marquer. Donc, c'est hyper important. Et là, c'est la deuxième chose finalement que tu as dite qui est vraiment géniale, c'est c'est se faire accompagner. En tout cas, de s'offrir un espace de parole avec quelqu'un. Bon, en tout cas, soit c'était une web designer, ça peut être quelqu'un d'autre, un coach, je sais pas, coach Instagram, coach marketing, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui va prendre le temps de poser des questions. Et nous forcer, nous, à bah, justement apporter des réponses et apporter un regard un petit peu neuf, différent sur notre pratique photo et de faire ressortir des choses qui ne sautent pas aux yeux et qui pourtant sont là devant nous, quoi. Donc vraiment, le travail a été réussi, je te le dis très, très clairement, parce que quand on arrive sur ton site, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait exactement où tu nous emmènes. Voilà. Et ça, c'est absolument génial. Je suis très content que tu aies dit que tu t'es fait accompagner. Je sais pas si cette courant des temps est très précise là-dedans dans ma phrase. Je suis pas sûr, mais parce que ça vient pas tout seul. Voilà. C'est pas parce qu'on a un style affirmé. C'est paradoxal, hein. Mais c'est pas parce qu'on a un style affirmé qu'on est photographe expérimenté que d'emblée, on va faire quelque chose, justement, dans la communication qui va être, justement, hyper, comme toi, très carré, quoi, hein, et très naturel, et c'est hyper important de se faire accompagner comme ça.
Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je recommande à toutes les personnes qui me disent « Ah, je veux faire un site », d'investir. C'est un investissement.
Bien sûr.
Beaucoup de personnes se disent « Ah, bah, je vais faire mon site moi-même parce que ça coûte moins cher. » Sauf que quand on fait son site soi-même, on n'a pas forcément de recul sur notre travail. Et du coup, bah, là, c'était une web designer qui apprécie mon travail et du coup forcément elle a su comment mettre aussi mon univers en valeur à travers un site. Et après tout le monde m'a dit mais ton site te ressemble. Tout le monde m'a dit ça et je t'en dis bah c'est incroyable parce que en fait la personne qui l'a fait s'est mise à ma place. Et voilà, donc je vous recommande Studio Douceur, elle s'appelle.
Ah oui, bah,
elle est merveilleuse.
Studio Douceur, parfait. Oui. Et écoute, c'est noté, je mettrai en référence en bas dans la description du podcast. On a déjà une heure d'interview, pas vu le temps passer, je pense que c'est bon signe. Allez, encore une petite question par rapport à ton flux de visiteurs, tu vois, à ton trafic. En gros, bah, la question est très directe, hein, mais ta principale source de commande, elle vient d'où ou dit autrement, comment les gens te découvrent finalement?
C'est principalement sur Instagram, en vérité. Okay. Le site est bien parce qu'il donne une certaine crédibilité. Par exemple, s'il y a une personne, je ne sais pas, d'une agence de mannequins qui veut travailler avec moi, bah, le site, c'est quand même... Voilà. Puis ça permet d'avoir ses photos en haute définition, quand même, parce que sur Instagram, la définition est catastrophique.
Oui, ça va bien pour les petits écrans, hein, mais pas plus, quoi. Hein.
C'est ça. Donc ouais. Le site, c'est bien, ça fait sérieux.
Ouais.
Mais en vérité, ma principale source de trafic vient d'Instagram. Je passe quand même un peu de temps à entretenir la communauté, à poster du contenu, à faire des petites stories, etc. Parce que sinon, on disparaît. On se fait très vite oublier sur les réseaux sociaux. Mais oui, ma principale source de demande pour les commandes va venir d'Instagram et en secondaire, ça va être le site.
Ok. Oui, parce que le site, finalement, c'est un site qui te permet de dire aux gens, bah, en gros, allez voir là-dessus. Mais clairement, il n'est pas dit que les gens te trouvent avec Google sur des mots-clés de recherche, difficilement te trouver, je pense, avec ton site. Pas parce qu'il n'y a peut-être pas de contenu ou pas parce que tu as posté quelques photographies, que tu as fait ta biographie, que tout de suite on va trouver photographe Portrait Paris grâce à ton site, en fait. Hein,
oui, je pense que pour avoir un site qui remonte bien dans les recherches Google, ça peut être mieux de faire un blog.
Par exemple,
et voilà, moi, j'ai pas forcément le temps. Et c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas forcément le temps d'en faire un, mais typiquement, ça peut être faire un blog, faire des vidéos YouTube ou des choses
aussi.
Comme ça. Création de contenu, en fait, qui vont permettre de mieux se faire connaître autrement.
Oui, mais là, encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend du public que tu veux aller chercher. Si tu as envie de travailler avec des gens qui sont jeunes, dans la mode, qui sont... bah, sur les réseaux, qui connaissent les codes des réseaux, clairement, bah, oui, il faut passer du temps à créer du contenu sur Instagram.
Oui.
Et si tu veux aller chercher des gens qui sont, je sais pas, plus installés ou faire du photographie, de portrait corporate, peut-être que LinkedIn, ça peut être intéressant d'aller développer quelque chose là-dessus, quoi. Ça dépend où se trouve, ou en tout cas où tu veux aller chercher les gens qui pourraient être tes futurs clients. Dernière chose, mais c'est pas la moins importante. Si on veut te suivre, donc t'as ton compte Instagram, est-ce que tu peux nous dire tout simplement le nom de ce compte-là, s'il te plaît, Agnès?
Oui, c'est agnès.bttn, qui est l'abréviation de mon nom, Boutin.
Ok, parfait. Alors, il me semble que tu as mis pour l'instant sur ton Insta que tu faisais des pauses dans les commandes en fait de shooting parce que tu privilégies ta vie des proches de ta famille clairement. Malgré tout, les gens vont peut-être écouter ce podcast dans 6 mois, 1 an et donc ce serait peut-être plus d'actualité. Comment on fait si on veut faire un shooting avec toi, Agnès?
Il y a 2 moyens, soit m'envoyer directement un message privé sur Instagram, je réponds quand même assez vite. Sinon, me contacter via le formulaire de contact de mon site. Parfois, ça rassure aussi les gens de passer par le formulaire de contact, parce qu'il y a des petits champs à remplir.
Plus classique.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Ok, merci. Et je confirme, Agnès répond très vite quand je l'ai invitée pour faire l'interview, elle a répondu bon, dans la journée, et ça, c'est génial. Très appréciable.
Ouais, j'ai la phobie de la boîte mail. J'ai la phobie de la notification de la boîte mail, donc je réponds très vite.
Je suis un peu pareil. Merci infiniment, Agnès, pour écoute, le temps que tu nous as consacré à donner tous tes conseils, à nous partager un bout de ta vie. C'était très enrichissant, très intéressant, et merci beaucoup.
Merci pour ton écoute. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify et que l'épisode vous a plu, eh bien dites-le en laissant un commentaire tout simplement, ou alors une note avec 5 étoiles si possible, bien sûr. Ça permet de faire remonter le podcast dans les classements et ça m'aide beaucoup pour le faire connaître. Merci infiniment.